Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGuayeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
Parce qu'il y avait des jeunes qui étaient dans un voyage étudiant qui étaient là.
Vous avez doublé la foule.
Ah, il n'y avait pas de monde. C'était terrible comme il n'y avait pas de monde. Fait que c'était un petit peu gênant de voir comment ça se passait dans ce secteur-là. Pierre, j'aimerais que tu vérifies. Je sais qu'on suit cette page Facebook-là depuis déjà belle lurette. Puis là, j'ai l'impression de voir des photos et sur Facebook et sur Instagram et dans les journaux. Probablement. Est-ce que les Nordiques sont de retour? Puis c'est une annonce imminente parce que on parle des Nordiques partout, là.
Le retour des Nordiques sera pas long, je vais le trouver, je sais être certain.
Non, mais oui, pourquoi il y a des photos des Nordiques partout, là?
Pour le 50e anniversaire de l'AMH qui va avoir lieu à l'automne prochain.
Oui. OK.
Le 21 juin dernier, ça c'est il y a deux jours, on nous annonçait que les Nordiques ne sont pas de retour à Québec.
50e anniversaire de la naissance de l'AMH et des Nordiques, il va avoir des événements spéciaux.
Bobby Hall va venir à
T'avais
Québec.
6 ans, t'en souviens-tu?
L'AMH, oui, je me souviens. J'ai aimé cette ligue-là.
T'es allé?
Oui, je suis allé. J'ai suivi ça.
OK.
Ouais, c'était folklorique.
C'était... Qu'est-ce que tu dis?
Il y avait des drôles d'affaires dans cette ligue-là. Là.
OK.
Il y a des places où les joueurs devaient s'habiller dans les chambres d'hôtel parce qu'il n'y avait pas de chambre à l'aréna. C'était rien que juste, des fois. Là.
OK, OK.
Ouais.
Puis, est-ce que à cette époque-là, les remparts sont à Québec?
Oui, c'est les remparts qui sont pas mal plus vigoureux.
OK. Puis
ça permet à l'AMH de naître là, à Québec. Là.
Okay.
Les remparts venaient de gagner la Coupe Memorial de mémoire avec Guy Lafleur.
Oui.
Quand les Nordiques sont arrivés, okay. En 72.
OK, fait qu'il y avait eu un genre d'engouement pour le hockey.
L'aréna était plein.
OK. Mais il y avait peut-être au début de l'AMH du Nordique, il y a plus de monde qui vont au match des remparts qui vont au match de l'AMH.
Mais les gens découvrent le hockey professionnel de l'AMH. Là.
OK.
Puis beaucoup de Québécois quand même. Jean-Claude Tremblay était venu jouer avec les Nordiques, ça avait aidé. Bodé Cloutier, Marc Tardy.
Puis là, ils gagnent à un moment donné.
Ils gagnent la Coupe Avco.
Ça allait 16.
Donc ça, après, donc 4 ans d'existence dans la Ligue,
ouais,
c'est ça?
Oui, c'est ça. Mais ça a duré 7 ans, l'AMH. Ça n'a pas été long, là.
OK, OK.
Il y a eu la fusion en 79 avec 4 équipes qui ont fait le saut dans la Ligue nationale.
C'est ce qui a tué l'AMH?
Oui.
OK.
Oui. Mais il y a eu...
l'AMH était rendu à bout, là.
Oui, un bout de temps, il y a eu 20 équipes dans l'AMH, je pense. Ça descendait à 14, 16, 18. Ça se promenait, là. C'était pas stable. T'as pas une ligue stable.
OK. OK. Je me souviens vaguement, ou même pas pantoute de ça.
Non.
Fait que...
Un des épisodes marquants, c'est quand Marc Tardy s'était fait assommer sur la bande par Rick Giodio. Ça, c'est un nom qui dit quelque chose.
Oui,
sûrement.
Oui, oui, absolument.
Les Cowboys de Calgary.
OK.
C'était pas chic, ça.
Fait que là, on va se rappeler tout ça. S'en souviens-tu, Marc, de ce point-là?
J'espère. Peut-être.
Parce qu'il avait perdu connaissance. Hein?
Oui, il a perdu connaissance, certain.
Ouais.
Oui.
Il
a
manqué beaucoup.
Je pense qu'il l'a pardonné. Hein? Il a pardonné à Rick Giodio.
OK.
Oui.
Je sais pas si c'est toi son porte-parole.
Un drôle de pistolet.
Ah oui, OK. C'était le hockey du temps, il y a quand même 50 ans déjà.
Les Cougars de Chicago.
Tu veux, je ne dis rien.
Les Cincinnati, c'était les...
Oh,
Bengals?
Non, c'était pas les Bengals. Les Stingers de Cincinnati, peut-être.
OK.
Les Racers d'Indianapolis. Wayne Gretzky a fait ses débuts dans le hockey professionnel dans l'AMH.
Il n'y avait
avec
que 17
les Racers d'Indianapolis.
Eux autres, là, ils se sont votés des règles pour drafter les gars un an avant la Ligue nationale de hockey pour être sûr d'avoir accès à ces gars-là.
Il a dû jouer une quinzaine de matchs, je pense, Gretzky, avec les Racers. Les Baby Bulls de Birmingham, avec Mark Napier. Michel Goulet, je pense, jouait pour les Baby Bulls de Birmingham.
Ah ouais, OK.
Oui.
Ça veut dire que les gars avaient des salaires.
Que je te parle, il me vient des souvenirs.
Ben là, OK. Mais moi, j'ai
les Aeros de Houston.
Ça me dit quelque chose parce que...
Léa a joué avec ses fils.
C'est ça. Là, j'ai
Mark
vu.
Et Marky.
Mais
j'ai
ça, c'est rendu à... Ouais.
Le premier millionnaire du hockey, c'est dans l'AMH.
Bobby Hull.
C'est Bobby Hull avec les Jets de Winnipeg. Là, ils ont amené des Européens. Anders Hedberg puis Ulf Nilsson.
OK.
Joue avec Bobby Hull.
OK.
Lars-Erik Sjöberg, c'était le défenseur. Le capitaine des Jets.
Moi, je me souviens juste de Risto Siltalainen.
Les Whalers, ils s'appelaient les Whalers de la Nouvelle-Angleterre.
OK.
Oui.
Ah ben, fait que tout ça est
du Fighting Saints du Minnesota. Marc Tardy avait commencé avec les Sharks de Los Angeles, je pense.
OK.
Et je pense qu'il avait été acheté. Tu pouvais acheter des joueurs. Aussi,
puis c'était
Jacques Demers s'était habillé. Jacques Demers, je me souviens que Jacques Demers... C'était habillé Parce qu'il y a un soir, son équipe, puis je pense que c'est les Cougars de Chicago, il y avait 16 joueurs seulement. Et il manquait de joueurs.
C'est
comme
vrai.
Si toi, maintenant...
Puis là, lui, il était coach?
Oui. Puis il s'était habillé, il me semble, Jacques Demers.
OK. Oh,
oui.
C'est comme moi, là, quand ils ont voulu m'habiller avec la Radio X.
Pareil.
Parce qu'il manquait de soldats. Là.
Ça a failli, ça?
Ça a failli, ça. À quelques reprises,
bon, ça.
Certains.
À
ça.
Quelques reprises?
Oui.
L'annonceur maison, habillé.
L'annonceur maison en uniforme ce soir.
Double paye.
Oui, double paye. Deux fois rien, ça fait quoi? Argent.
Ah oui, hein? T'avais trop soif.
Exactement. OK.
Cowboys de Calgary, leur gardien, il y avait d'habitude les palettes de hockey de gardien de but, c'est douette.
Ouais.
Le hockey, la palette du gardien de but des Flames était curvée. C'est rare, ça. Pour être mieux shooté après.
Ouais, mais après ça, c'est devenu à mode.
De McLeod, je pense qu'il s'appelait, lui.
OK.
C'est devenu à mode après.
Ben oui, après ça, les palettes de gardien de but sont venues un petit peu incurvées pour pas que la puck glisse. Je suis peut-être plus comme ça, mais ça a été. Il y a des années
j'en
où.
J'en vois plus de palettes.
OK, il doit.
Les gardiens.
Ah ouais? Ben oui. Fait que.
C'est rare.
Autre temps, autre mœurs. C'est drôle parce que, donc, ça va faire 50 ans cet automne.
50 ans, puis c'est, ouais, il va y avoir des festivités, là, de ce que je comprends.
C'est drôle parce que dans les avis de décès d'aujourd'hui.
C'est pas drôle, des avis de décès.
Non, mais il y a un avis de décès d'un 50e anniversaire. Hey, ça fait longtemps, je vois le vert. Tu sais, puis c'est...
Il souligne un 50e anniversaire. Ah, ouais.
Ben oui, c'est ce que je pense. J'essayais de voir, parce que la photo est quand même... a de l'air quand même assez récente. Je vais te la lire. C'est la photo de Cécile Goupy, de Saint-Lazare. C'est écrit en dessous de la photo. C'est une jeune fille, très, très jeune fille. J'aurais de la difficulté à vous dire son âge. Puis donc, Cécile Goupy, Saint-Lazare, c'est écrit en dessous de la photo, 1972 à 1922. Fait que... à 2022, pardon. 2022. Donc, ça fait 50 ans, probablement décédé, donc, en 72. Puis c'est écrit, « Cher enfant, tu nous as quittés si vite que tu n'as pas eu le temps de nous dire au revoir. Il y a des moments dans la vie où l'on aimerait ramener une personne du ciel pour passer quelques instants avec, l'embrasser et l'écouter, son rire et avoir l'occasion de lui dire qu'on l'aime et qu'elle veille sur nous, ta maman Marie. » Donc, un 50e anniversaire, j'ai pas vu ça très, très souvent. Là, il y a un 30e aussi d'un monsieur Gingras, mais 50 ans, c'est du stock en tabarouette. C'est comme moi, hier... Ça faisait 5 ans que la mère de ma blonde était décédée. Tu sais, puis là, ces autres, ils se sont écrits, ils ont publié une photo, ça brasse toutes sortes d'émotions comme ça, mais au fil des années, j'imagine un petit peu que ça, j'ai envie de dire, ça s'estompe un petit peu. On s'en souvient tout le temps, mais c'est pas toujours la même intensité, j'allais dire. Mais je veux pas parler au nom de personne. Je fais juste dire que c'est quand même bien de se souvenir des gens qui étaient là. D'ailleurs, dans les avis de décès, il y a 57 ans, Chantal Tanguay, Sylvain Tessier, un à Sainte-Marie, à l'hôpital Sainte-Marie à Trois-Rivières, et l'autre personne, 57 ans, est décédée. Elle demeurait à Saint-Vallier de Bellechasse. Sinon, dans les avis d'essai, ce qui a retenu notre attention, il y a Mme Irène Grondin-Lévesque, 104 ans, et il y a Mme également Madeleine Beaulieu-Dugal, elle, 102 ans. Fait que, puis, c'est drôle, il y a un paquet de jeunes femmes, je l'ai dit. Ah, il y a un autre 57 ans ici, pardon, à l'Hôtel-Dieu de Québec, Daniel Jobin est décédé, il demeurait à Québec. Fait que c'est des gens beaucoup trop jeunes qui décèdent comme ça, et des centenaires, puis il y a des femmes de 96 ans, il y en a également plusieurs qui sont dans les avis de décès d'aujourd'hui. Prenez une minute des fois pour aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, ça fait le tour.
Voilà.
On revient dans un instant, vous êtes dans Dupont le matin.
Oubliez pas que ça vous met dans la même gang que Steph Dupont. On a mis quelqu'un au monde, on pourrait peut-être le regretter.
Dupont, le matin.
Voici un genre de 2 minutes, mais pas tout à fait. Des nouvelles commentées un peu. C'est pas clair.
Wow! Toute une présentation en cette journée mémorable. Aujourd'hui, oui, où la fête nationale des Québécois s'amène dans les prochaines heures. Journée mémorable également parce qu'on a un invité de marque aujourd'hui. Merci à tout le monde qui se sont impliqués parce que il y a beaucoup de monde qui ont dû intervenir pour qu'on puisse avoir ces quelques minutes. Puis comprendrez que notre invité, qui sera avec nous autour de 8 heures, là, a des contraintes de santé. Donc, ce sera un court entrevue, mais au moins, on pourra le saluer. Alors, c'est le pape qui sera notre invité ce matin à 8 heures, oui.
Vous aurez le one?
Hein, comment?
Le vrai?
Ben oui, le vrai. Oui, on est
fort.
Pas passé par le clergé pour parler à un faux. Là.
Il a mal à un genou, je pense. Il est capable de parler.
Oui, c'est ça. Puis c'est vraiment pour que ce soit compté. Là, il a annulé son voyage en Afrique. Ouais. Et on va être certain qu'il annule pas son voyage à Québec. Alors, c'est un genre de petit message qu'on va lui passer en lui disant qu'on a bien hâte de le voir ici à Québec. Bon. Alors, manquez pas ça. Ben on parle avec le pape. Donc, François Ier, Jorge Mario Bergoglio. Ça ressemble à ça.
D'autres, on va l'appeler François. Ouais,
peut-être même Frank. S'il accepte, j'aimerais bien ça qu'on règle ça pour Frank. Fait que, ça, on verra. Ça, c'est autour de 8 heures. Je peux vous dire, à la météo actuellement, fait 16 degrés sur Québec. La pluie a commencé. Évidemment, c'est une pluie que l'on voit maintenant, là, qui a envie de franchir la limite du fleuve. Donc, l'intensité de la pluie va arriver sur Québec dans les prochaines heures. Je vois vers 8h30. Donc, les niveaux d'intensité de pluie vont augmenter légèrement. Mais c'est de la grisaille un peu toute la journée. On risque de s'en sortir ce soir avec des pourcentages qui sont entre 40 et 50%, donc des averses isolées. Peut-être que vos feux d'artifice, que vos feux de camp, que vos soirées avec chansonniers, je pense à la gang du Nicanva, ça c'est demain soir, par exemple, eux autres à Saint-Bernard, où ils font le party, mais donc il y a plein d'activités, puis demain il va faire beau. C'est ça, ce qu'il faut savoir, là, c'est que demain, vendredi, à partir de la mi-journée, vraiment, c'est une alternance de soleil-nuage. Le mercure va monter et je vois du beau temps, même très dégagé vendredi soir. Puis ça s'augure très bien pour samedi. Ça augure très bien pour samedi. Alors, vous allez pouvoir vraiment en profiter. Moi, je vais m'interrompre là-dessus. À partir de 10 heures, je vais m'absenter.
Tu vas t'interrompre, toi.
Je vais m'interrompre moi-même. Pendant une semaine.
Je m'interromps.
Oui! Je vais m'interrompre pour une semaine. Une petite semaine de vacances. Normalement, vous savez, c'est les équipes de remplacement qui prennent place dès la Sainte-Jean-de-Baptiste. À la Radio de Québec, ça a été ça pendant des années. Ça fait des années que je veux qu'on change un peu cette façon de faire-là. Et c'est à moi un peu aussi de prendre le taureau par les cornes. Ce qui m'a empêché de faire ça, ben, c'est évidemment 2 ans de pandémie qui ont fait que les voyages, que les ajustements étaient plutôt difficiles. Donc, je m'absente une semaine. On m'a dit que c'est Jérôme Landry. Si sa condition physique le permettait, qu'il allait être là, c'était encore...
Si l'ascenseur fonctionne.
C'est ça.
Je pense que c'est Paul Raphaël qui est là.
C'est Paul Raphaël, ouais. Finalement, Jérôme.
Ça a changé?
Oui, parce qu'il y a de la misère à monter des marches.
Plusieurs
parce que le premier cas, c'était Jérôme.
Ouais.
Ça a changé quelqu'un.
Mais il va avoir quelqu'un gros.
Il va avoir quelqu'un.
Pas fini, fini.
Quelqu'un gros, okay. Pas fini, fini.
Quelqu'un qui préfère prendre l'ascenseur au lieu des escaliers.
C'est ça. Fait que mais Ray va être là. Pierre, tu vas être là, toi? Oui.
C'est ma dernière semaine, ouais.
Catherine va être là, donc il n'y aura pas vraiment de changement. Puis moi, je reviens pour le lundi 4 juillet vous raconter mes péripéties. Puis Karen aussi va être de retour le 4 juillet. Elle va être de retour de son voyage à Hawaï. Alors, ça va faire quand même beaucoup de choses.
On me confirme que Paul Raphaël est là du lundi au mercredi et Jérôme est là jeudi.
Ça, voilà. Ça démontre une chose. Tu sais, me remplacer, c'est quelque chose. Pas à cause du talent, du contenu, mais c'est l'effort physique que ça demande de se lever, d'être là.
Allô?
Il faut qu'il se splitte ça à deux, je vois le faire. Fait que,
ben oui, mais moi aussi, en plus, je suis là juste jeudi.
C'est vrai?
Ben oui.
OK.
Anne-Frédéric va remplacer du
avec
lundi
Paul Raphaël.
Au mercredi, c'est ça.
Bon.
Moi, ça je vais être bouger. Là lundi à jeudi, mais de 6h à 8h, moi, finalement.
Finalement.
Je vais prendre quelqu'un d'autre après. Après,
garde ça aller, là. Tu finiras pas le chiffre au grand complet.
Il y a des couleurs partout sur cet horaire-là. C'est vrai que ça a dû être compliqué à construire. Ouais. Tabarouette.
C'est un beau casse-tête, hein, mais c'est pas grave. Au moins, il y aura du stock en onde tout le temps, puis ça va être de la variété, ça c'est certain. Et moi, donc, comme je le disais, je reviens le 4 juillet pour deux semaines avec Karen. On va être en plein cœur des festivals d'été. En plus, je vais le vivre de Québec, parce que je vais rester à Québec ces deux semaines-là. Fait que j'ai
Est-ce que tu présentes un spectacle sur scène, Stéphane?
Non, j'aurais bien aimé. C'est une des affaires, qui me reste... Du décès de Bob Bissonnette, l'affaire la plus amère que je garde, c'est que le Festival d'été ne l'ait jamais invité. Je voyais encore la liste des noms, là, de, moi, excusez-moi, là, mais d'un paquet de chaudrons, là, mais qui ont toujours été dans la bonne gang. Puis, d'Angelina, je sais pas ce que Bob avait fait. Il avait rien fait. Il s'était jamais parlé. Mais d'Angelina avait en tête que Bob Bissonnette viendra pas au Festival d'été. Ouais. Ah, moi, c'est pas pour rien que je méprise ce personnage-là. Là. C'est comme d'autres, là, mais lui, entre autres, c'est, il retournait même pas les appels. T'sais, je l'avais même, moi, appelé juste pour lui parler, dire, hey, qu'est-ce qu'on pourrait faire?
Pourtant, il me semble que c'est un party facile en claquant des doigts.
Ben, mais c'est ce qu'ils veulent pas. C'est des petits doigts en l'air. Oublie pas que c'est vin et caviar, cette gang-là. Aujourd'hui, je dis pas que c'est ça aujourd'hui. Mais la gang autour de Daniel Gélina, ça a été... c'était... Tu sais, tu chantes de la
en
musique
En tout cas, à l'évidence,
chante.
T'es soulagé du changement de garde au Festival d'été à t'entendre. Ça, ça
ben
me
là,
semble assez
cas,
évident.
Ben, tu regarderas, il y a du monde de la région de Québec. Aussitôt que t'es musicien puis t'as un peu de succès, si t'as un band dans la région de Québec, les chances que tu sois invité sur l'une des scènes, c'est pas sa grosse scène, c'est plein. Bob, il voulait pas faire le show à la place de Maroon 5 là, le 9 juillet, là. Il voulait rien qu'une petite scène quelque part pour lui montrer, comme il a fait dans bien des événements où il a surpris tout le monde. Fait que avec le crowd qui pouvait avancer, crowd qui savait vivre, oui, une crowd de monde qui était festif, mais qui... Et on n'a jamais su pourquoi Daniel Gélina bloquait la possibilité que Bob Bissonnette vienne au Festival d'été. On l'a jamais su. Et on le saura jamais. Évidemment, on saura jamais la vérité si ça fait pas partie de leur ADN.
D'un Bob à un autre, Bob Fournel m'a écrit pendant la pause.
Oui.
Il m'a rappelé que dans l'AMH, ben moi, je ne savais pas, il me l'a appris, que du côté du Minnesota, on avait des bandes transparentes.
Oui, transparentes.
Okay. Hey, c'est hot, ça.
Les Fighting Saints du Minnesota.
Ah oui, eux autres, ils vous voyaient à travers la bande.
Il y avait des rondelles rouges aussi.
OK.
Ils ont essayé un paquet d'affaires.
Ils ont essayé de réinventer le hockey à leur manière. Hein. Tu sais, ça prend bien Bob Fournel qui a 80 quoi, 84?
92.
Pour se souvenir de cette époque des Nordiques et de l'AMH.
Ah, il fait dire d'aller se faire voir.
Moi, comme hier, là, à propos de hockey, j'ai appris quelque chose que je trouve quand même hot parce que c'est Ray qui m'a présenté ce personnage-là pour la première fois. Puis j'ai eu la chance de voir un peu, pas de le rencontrer, mais de voir de quelle façon ce personnage-là marquait ses entreprises. Et c'est le propriétaire de l'Avalanche du Colorado, M. Kroenke, oui. qui s'est fait un bar, entre autres, à l'Arena, à Denver. Brasserie-bar, là, c'est difficile. C'est tout en bois rond. C'est vraiment phénoménal. Il faut vraiment le voir pour le croire, pour voir comment lui, c'est ce qu'il voulait. Puis les conseils des autres, en son cas, M. Kroenke, c'est pas tout le temps pertinent.
Non.
Et il pourrait devenir le premier propriétaire à être et champion de la NFL
et
du Super Bowl et champion de la Ligue nationale de la Coupe Stanley. Fait que la même année, parce qu'il est le propriétaire des Rams de Los Angeles qui ont gagné donc le Super Bowl. Fait que ce serait une première dans le monde du sport. Puis hier, je voyais la liste des équipes de sport dont il est propriétaire. Mm-hmm. Évidemment, à Denver, il y a les Nuggets aussi, qui est l'équipe de basketball. Mais il y en a d'autres aussi, là, ça se décline avec plusieurs équipes.
Au soccer.
Au soccer, mais c'est en Angleterre, ça, hein? C'est une équipe d'Angleterre. Fait que c'est...
Il est très riche, M. Kroenke.
Hey, ça doit être tabarouette avec ces équipes-là. C'est juste les Rams avec le SoFi.
Il est à Los Angeles, où c'est installé. Là, lui, il est impliqué aussi. Ils font un complexe résidentiel autour de l'aréna, là, du nouvel aréna. Là, et il est impliqué dans tout ça.
Ça doit pas être payant, ça, hein?
Je pense que... Si ça rapporte pas, il raccroche.
D'après vous, oui, hein?
Raccroche!
OK. Bon, fait que voilà pour la météo et pour les festivités donc qui s'en viennent.
Il pleut, hein?
Et il pleut, oui, effectivement, partout, là, c'est commencé.
Partout, même ça arrive sud.
Ça. Ouais, ça a commencé, ça arrive sud, hein, mais ce que je voyais, les cellules jaunes, là, donc sur le radar, c'est les cellules plus intenses, sont encore sur la rive nord. Ils vont sûrement traverser le fleuve à un moment donné, bien sûr, parce que l'eau du fleuve va monter, parce que souvent, c'est la température de l'eau qui va agir comme un mur, mais là, on semble... avoir atteint un niveau où ça n'a plus d'impact. On va jeter un petit coup d'œil dans l'actualité de ce 23 juin 2022. Juste peut-être vous rappeler, puis j'ai à nouveau écouté ce matin un petit reportage sur les 20 ans du décès de la fille de M. Boisvenu. On lui a parlé plus tôt cette semaine, là, Pierre-Hugues Boisvenu, qui est maintenant sénateur, nommé sénateur par la gang à Stephen Harper, parce qu'il n'avait qu'un objectif en vie, ou un objectif après la mort de sa fille, qui a été assassinée il y a 20 ans aujourd'hui. Et c'était de que les victimes aient les mêmes recours. Donc, les victimes collatérales, bien sûr, elles et donc les parents, les survivants de ces gens-là, aient des mêmes recours. Et dans le documentaire que j'écoutais, M. Boisvenu, avec son association d'aide aux victimes... C'est quoi le nom déjà? J'ai oublié le nom, tabarouette, que je m'en veux.
L'association des familles de victimes...
Les familles... L'association des familles disparues. Il manque un mot. Et ce qu'il racontait, M. Boisvenu...
C'est l'association des familles de personnes assassinées ou disparues.
OK. Et ouais. Dans son association, il s'est entouré de trois autres hommes. Il s'est dit, je veux une image masculine de cette association-là. Parce que nous, il parlait ici des quatre pères qui étaient là, ont vu leur fille assassinée par un homme. Puis, sans y aller de généralité, il dit, c'est trop souvent le cas. Que c'est des jeunes femmes, des femmes qui sont assassinées par des hommes et les gens qui restent autour ont très, très peu de recours. Et hey, d'ailleurs, cette semaine, il y a des choses, tu sais, il y a des choses intéressantes des fois dans la vie quand tu reviens sur l'histoire autour d'un crime comme celui-là. Tu sais, M. Boisvenu nous l'a raconté plus tôt cette semaine, donc avec quand même beaucoup d'émotion. Il racontait comment sa fille a été victime d'un gars qui était qui aurait dû être encore en prison, qui était on savait qu'elle allait devenir un criminel notoire. C'était juste à savoir maintenant quand. Mais c'est de voir que, tu sais, des fois, il faut faire attention pour mélanger les émotions et également les faits qui se sont passés. Et il y a certaines documentaires ou émissions qui ont de la difficulté à faire ça. Mais la partie documentaire que j'ai écoutée cette semaine, c'est sur le meurtre de Clémence Beaulieu-Patry, qui était une jeune femme de 20-21 ans, donc qui avait ton âge, Catherine. Et puis c'est terrible, parce que je me souvenais pas vraiment de ça. Je me souvenais pas de ce meurtre-là. Puis le pire, c'est que le gars, le meurtrier en question, a quand même failli s'en tirer. Et s'en tirer de plusieurs façons. Premièrement, parce que on n'avait aucun indice de qui avait pu faire ça au départ. Puis deuxièmement, quand on l'a arrêté et accusé de meurtre au premier degré, parce que c'était clairement ça, il a passé à deux cheveux de s'en tirer, étant non criminellement responsable du geste qu'il a commis. Imaginez-vous, je vais dire Walmart, mais je suis pas sûr, là.
C'est un maxi,
mais il y avait du linge. On n'a pas ça beaucoup à Québec, là.
Oui, t'as un maxi, t'as une section Joe Fresh.
OK, je vois rarement, là. Bon, ben, elle, Clémence Beaulieu-Patry, travaillait au maxi dans la section vêtements pour enfants. Et, elle était là, elle avait des collègues. Ça faisait un certain temps qu'elle travaillait là. Et à un moment donné, un après-midi, une fin de journée, un individu, un homme noir, est arrivé. Il est entré dans le magasin. Il est allé directement la voir.
Randy Chilumba.
Exact. Et si je me trompe pas, il l'a poignardé de 15 coups de couteau, ça se peut-tu?
Dans le magasin.
14 dans le magasin.
Il l'a poignardé, en tout cas, ça c'est sûr. Combien de coups de couteau?
C'est 14 ou 15, en tout cas. Fait que, dont 3 l'ont atteint mortellement. Elle est morte dans les bras de ses collègues et de clients qui ont tenté de la maintenir en vie, ce qui s'est avéré impossible et ce qui s'est passé en quelques minutes ou fractions de secondes même. Et l'individu, lui, qui est donc était rentré là avec un couteau...
Un ancien collègue de classe de la jeune femme.
Oui, mais ça, au départ, on sait pas c'est qui a fait ça. Puis ils comprennent pas. Elle est dans le magasin, elle a aucune histoire. Elle a pas d'ex, elle a pas d'histoire avec personne.
Aucun doute sur quiconque.
C'est ça, il y a rien, ouais. rien. Fait que, puis là, lui, il sort de là. Puis oui, il y a des images vidéo, mais d'une qualité moindre et très difficile à identifier l'homme. Ce qui va faire qu'on va l'arrêter à un moment donné pour régler son cas à lui, là, c'est que après avoir tué cette femme-là, il est sorti, il s'est sauvé, il s'est en allé dans un restaurant Tim Hortons, ouais. Il s'est embarré dans la toilette des femmes du restaurant Tim Hortons pendant 7 heures.
Toute la nuit?
Oui, toute la nuit. Mmh. Et c'est une cliente
là,
qui...
7 heures dans un restaurant.
Est foirée dans la toilette. La toilette barrée, il sort pas, là. Il barre la porte, puis il reste là pendant 7 heures. Mais c'est la nuit. Fait que peut-être que les gens essayent, la porte est barrée, ils vont ailleurs, puis, tu sais, j'essayais de m'imaginer comment, dans quel contexte ça a pu se passer. Un contexte tellement que les employés ont rien vu, du Tim Hortons, je parle, et là, la police, c'est le branle-bas de combat au maxi, mais au Tim Hortons, il se passe rien. Et là, c'est une cliente, au matin, qui, là, a dit, voyons, il y a la porte de la chambre de bain. Tu sais, je l'imaginais, ça, je le sais pas, je l'imaginais être allée essayer à la porte, elle barrait, elle dit, ah, bon, allez finir mon café, m'en revenir, puis la porte est encore barrée, ben, elle dit, voyons, qu'est-ce qui se passe dans la toilette, puis là, elle cogne dans la porte, et là, l'individu va ouvrir la porte, puis il va se sauver. Fait que ça va être très louche aux yeux de la police, et de fil en aiguille, on va le relier, donc, au meurtre de Clémence Beaulieu-Patry, et ensuite, finir par l'accuser. Et on a... Quand je disais qu'il a failli, on a failli jamais, tu sais, s'il s'en va pas au Tim Hortons, il se sauve.
On a d'abord failli jamais le retrouver.
Exact. Jamais savoir c'était
ça,
qui.
Ça, c'est la première des choses. Puis après ça, on a jamais, probablement failli ne jamais le voir condamné parce que là, sa défense, c'était des troubles mentaux.
Ben oui. Et effectivement, il avait connu des épisodes qui étaient documentés.
Ouais.
Des épisodes de maladie mentale. Ce gars-là voyait le démon dans certaines affaires, mais c'était pas toujours...
Schizophrénie et troubles délirants. Deux psychiatres qui ont conclu à ça.
Exactement. Mais par contre, c'était vraiment préalablement à l'histoire de meurtre. Et quand on fouille dans l'histoire, on dit, bon, OK, il était un collègue de classe. Donc, il fréquentait la même polyvalente que les jeunes filles et sans plus. Lui va dire à sa défense que ces deux filles-là, genre, je vais utiliser un terme que lui a pas utilisé vraiment, là.
Elle et quatre de ses amies
étaient des gens d'intimidatrices, en tout cas, où il
l'espionnait et cherchait à le tuer depuis des mois.
Ouais, lui, c'est ce qu'il va dire comme témoignage, que les filles voulaient le tuer. Lui, il avait un gros problème de bégaiement. Fait qu'il a fait rire de lui, oui, à l'école. Puis, est-ce que vraiment c'était ces filles-là qui riaient de lui? Puis, est-ce que ces filles-là vraiment avaient... Lui avait la prétention de dire que ces filles... Dans sa tête à lui, ces filles-là allaient le tuer, dont elle, Clémence.
Et qu'il il avait fait même dans sa tête une bonne action en tuant la victime, parce qu'elle se préparait à sortir un gun pour tuer les clients du maxi. Ça, c'est la version de...
Ça, c'est sa version. Fait que là, vous entendez ça, c'est procès devant juré, ils entendent ça, vous voyez qu'on s'en va directement vers un plaidoyer de non-responsabilité climatique. C'est ça, criminel. Mais là, il va arriver un changement. Il va arriver un point tournant majeur dans ce procès-là. Et je vous le dis, là, la police, ils ont fait une job époustouflante sur ce dossier-là, parce qu'ils ont dû visionner des heures, des jours et même des semaines de vidéosurveillance pour pouvoir démontrer que ce qu'il dit, c'est pas vrai. Et ça, là, je sais pas par quel hasard, puis, tu sais, des fois, des petits hasards, mais une fille dit, me semble que je l'ai déjà vu. Elle dit, je repense à ça. Elle dit ça à la police, elle dit, je pense qu'il est venu la semaine passée.
Ouais.
Et c'est de là que la police va visionner des images que le maxi a encore. Et que là, on va voir finalement, sans avoir le son, que ce gars-là est allé voir cette jeune femme-là le jeudi de la semaine avant pour lui demander si elle voulait sortir avec lui, parce qu'il y avait vraiment un problème de communication avec les femmes. Il va aller demander à la jeune femme si elle accepterait de sortir avec lui, qui est genre follement amoureux d'elle. Et que il aimerait ça, tout simplement. Puis ça va être très, très court comme discussion. Par contre, ça va être très cordial. On va le voir dans la face de l'individu qui arrive là puis qui est vraiment ultra gentil avec cette femme-là puis qui fait cette demande-là. On l'entend pas, mais ça se voit quand même assez clairement.
Le non-verbal, là, elle se braque pas devant les avances, par exemple.
Et bon. Elle va dire non. Mais elle est seule avec lui, elle va dire non. Et ce qui est hot aussi, c'est que là, l'individu va tourner les talons et va partir. Et c'est de là qu'il va bâtir sa frustration pour revenir la tuer une semaine plus tard.
Il est allé au maxi trois fois dans les jours précédents.
Et le précédent le meurtre.
Ouais. Hein.
Mais ce qui va être hot, la journée où elle va y dire non, c'est qu'elle est un peu quand même perturbée par ce qui vient d'arriver. Et là, il y a une de ses collègues qui rentre dans l'image, puisque l'image continue. Il y a une de ses collègues qui rentre dans l'image, puis il dit, qu'est-ce qui vient de se passer là? Ben, il dit, ça, c'est un gars que je connaissais, qui venait à la même école que nous autres, puis là, il vient de nous demander pour sortir avec. Puis j'ai juste dit non, là, il est bien fin, mais aucun intérêt là. Puis, et elle le raconte à l'autre. Et avec ces images-là, on va remonter à cette collègue-là, on va dire, hey, te souviens-tu de ça? Ben, elle dit, ben oui, c'est un gars qui voulait sortir avec elle. Mais elle n'avait pas vu le gars. Fait qu'elle pouvait pas faire le lien. Mais les images vidéo vont amener à dire, OK, c'est le même gars. Donc, ce qu'elle t'a raconté d'un gars qui l'a perturbé, c'était le même gars. Donc, ça va amener...
Ils bâtissent la preuve, hors de tout doute.
Hors de tout doute raisonnable. Et il sera condamné pour meurtre premier.
Autre élément, il avait apporté des vêtements de rechange pour modifier son apparence aussi au moment du meurtre. Donc, ça, c'est une autre chose qui a été notée au procès. Et c'est pour ça que le jury n'a pas cru la...
Puis, son colocataire aussi. Son colocataire a eu un témoignage, ça, j'ai trouvé ça hot. Donc, tu sais, un coloc, souvent, c'est quelqu'un que tu connais très, très bien. Puis, et c'était le cas aussi, il se connaissait très, très bien. Et le coloc est juste venu dire, non, il était pas... Il n'y avait pas de schizophrénie dans les jours et le jour du meurtre. Il dit, je lui ai parlé, je l'ai vu, je me souviens pas, je peux pas vous raconter le témoignage avec exactitude, là. Mais le coloc est venu dire... À mes yeux, à moi, en nommant l'autre individu, lui, semblait dans un état tout à fait normal, vivait des problèmes personnels parce qu'il était pas capable de se trouver une amoureuse, mais il n'y avait pas de schizophrénie ou de monde, d'un univers inexistant autour de lui.
Et la séquence est particulière parce que au procès, bien sûr, il a été déclaré coupable, mais je vous l'ai dit, il y a eu deux experts témoins qui sont venus témoigner genre en faveur de la défense dans ce dossier-là, disant qu'il y avait effectivement des épisodes de schizophrénie.
Pas Gilles Chamberlain, j'espère.
J'ai pas cette info-là. Et là, je te lis une partie du texte de la presse. Aux yeux de la défense, le jury a rendu un verdict déraisonnable compte tenu des conclusions non contredites des deux psychiatres. Parce que c'est ça l'affaire. La couronne n'a pas présenté de contre-expertise en santé mentale et pourtant, le jury a rejeté les témoignages des experts. Et là, le juge, qui est Guy Cournoyer dans ce dossier-là, il s'est demandé à voix haute, là, est-ce que cette situation-là, ça rend réellement impossible un tel verdict de la part du jury? Il dit non. Les jurés pouvaient rejeter des témoignages. Ça fait pas que le verdict est déraisonnable dans ce sens-là. C'est toujours au jury d'évaluer l'opinion des experts.
Tu sais, je savais pas ça.
Ouais.
Donc, pas de contre-expertise,
et
mais il y a tellement des faits marquants que c'est un geste prémédité et organisé d'une certaine façon.
La Cour d'appel a pris ce dossier-là en délibéré quand même en septembre dernier. Là.
OK.
Et c'est encore
devant
en cours.
La Cour d'appel?
Ouais.
On verra. Peut-être qu'on aura droit... C'est arrivé quand, ce meurtre-là, donc?
C'est arrivé en 2016.
En 2016? Ouais. Hey, on est encore devant la Cour d'appel. C'est pas long, la justice, au Québec?
Non, c'est pas long, ça va bien.
C'est arrivé... As-tu la date plus précise?
Ça va bien.
C'était l'été, me semble.
Faudrait que je te trouve
ça. OK. C'est pas plus grave que ça. Fait que je sais que ça, des fois, ça n'a pas rapport dans l'actualité aujourd'hui, mais je trouvais que ça avait un lien avec la mort de la fille de Pierre-Hugues Boisvenu.
Ouais.
Et je trouvais ça triste, puis tu sais, je trouve ça important.
Le 10 avril 2016.
OK, c'était à la fin de l'hiver.
En soirée.
En soirée, en début de soirée, ouais. C'est ça.
20h.
En 20h, OK. J'en venais pas parce que Pierre-Hugues Boisvenu, dans l'entrevue qu'il a donnée à Radio-Canada, arrêtait pas de répéter « Je fais ça pour ma fille, pour Julie. C'est au nom de Julie. Puis c'est au nom de... » Il a nommé deux autres jeunes femmes aussi. Là.
C'est surprenant de être là.
Non, c'est ça. Le monsieur, il y a un monsieur de Sherbrooke.
Il a peut-être décidé de quitter la scène publique, monsieur surprenant.
Peut-être.
Et des fois, tu veux passer à d'autres choses.
C'est ça.
Ben, t'es soufflé, hein?
Tu veux avancer. Parce que l'autre monsieur qui a parlé, là, je me souvenais pas du nom de sa fille, puis ça me disait rien. T'sais, parce qu'on peut pas toutes les savoir par cœur, là, l'histoire de meurtre, je les connais pas toutes. Là. J'en connais un maudit paquet, mais je les connais pas toutes. Fait que... Mais je trouvais... Tu sais, mettons, je vais te donner un exemple. Le grand défi, Pierre Lavoie, tu sais, le défi physique, là, qu'ils viennent de faire des milliers de kilomètres et tout ça. Si je me trompe pas, Pierre Lavoie, quand il a lancé ça, c'était pour... Ses enfants ont été... Ou son enfant a été malade. Vous en souvenez pas?
C'est flou.
OK. Bon, mais même moi, puis je me disais, c'est à ça que je pensais. Monsieur Boisvenu revient tout le temps avec Julie en avant. Tu sais,
c'est sa motivation, c'est sûr.
Oui, c'est ça, puis il le remet de l'avant. Puis je dis pas que M. Lavoie le fait pas.
D'après moi, il est devenu sénateur à cause de ça aussi. Là.
Ah oui.
C'est sa motivation.
Ça, c'était du grand Stephen Harper.
Ouais.
De dire, lui, là, il y a un objectif où il y a un but réel et sincère. Puis, tu sais, il fait pas ça pour le prestige, l'argent ou la parure. Il fait ça pour sa fille, puis pour aider les familles des victimes disparues. Puis Harper l'a nommé là, sénateur, bang, de même du jour au lendemain. Et ça a été une excellente nomination, selon moi. Fait que voilà pour ces histoires un peu tristes en cette journée triste, pluvieuse,
il pleut, là.
Grise.
C'est la fête nationale, là. C'est pas si triste que ça, là.
Ouais, fête nationale...
Québécois, nous sommes Québécois.
Ben, j'aimerais
t'es pas capable de chanter ça, Stéphane?
Pourquoi je suis pas capable de chanter ça?
Parce que t'as des nodules dans la gorge.
Est-ce que t'es un nationaliste, Ray?
Je suis pas nationaliste, mais je suis fier d'être Québécois.
Ben oui, moi aussi. Mais même, t'aimerais pas ça? J'aimerais ça dire que je suis nationaliste.
Ça veut dire quoi, nationaliste, Stéphane?
Ben c'est que nous avons une identité différente. Ouais, tu sais, nous avons... Moi, là, le Québec est un pays... OK.
Une nation, par exemple.
Une nation, bon, OK.
À l'intérieur d'un Canada
fort. Sauf que les seuls qui nous ont amené ça... Le Québec un pays, le Québec une nation, le Québec, oui, notre fête nationale, c'est toujours avec une vision et une gestion de gauche. Donc, dans une société...
Et essentiellement française.
Essentiellement française, très fermée, fermée sur nous-mêmes, puis, tu sais, très socialiste.
Ouais. Gauche-droite, c'est tel que tel, parce qu'à un moment donné, si jamais l'indépendance était faite, tu sais, après ça, t'es parti de gauche puis de droite, tu réinstalles, puis ça va changer comme c'était le cas avant. Mais la séparation ne doit pas se faire à gauche ou à droite, là. Ben, si ça se fait.
Si tu regardes la séparation...
On n'est pas dans ce dossier-là en passant trop, là, mais...
Ben, faites attention. Avec Bernard Drinville, à la CAQ, François Legault, c'était des nationalistes séparatistes.
Ouais. C'est des anciens du PQ.
Tu sais...
Mais là, François Legault, il serait bien mal placé de revenir avec ça, parce qu'il a quand même dit que lui, c'était à l'intérieur du Canada.
C'est son dernier mandat, puis je comprends tout ça. Mais à la CAQ est en train de s'installer... un très fort noyau séparatiste. Oubliez pas ça. Si vous pensez que c'est pas ça, là, c'est que vous avez deux yeux fermés. Je dis pas qu'ils vont le faire demain, puis lors de la prochaine élection. Je vous dis simplement ça. Puis moi, ce que je vous demande de comparer des fois, c'est les mouvements nationalistes séparatistes au Québec versus les mêmes mouvements qui ont aussi très peu d'ampleur, mais en Alberta, mais qui pourtant ont une vision complètement contraire de l'avenir de leur province. T'sais, ils voudraient, dans les deux cas, ils veulent la séparer, mais dans les deux cas, ils ont une vision complètement différente.
C'est déjà géré très différemment en Alberta par rapport au Québec. Donc, c'est sûr que si ça devait arriver, les gestions seraient différentes.
Moi, Banane, c'est Banane. Oui. Banane, c'est un péquiste. C'est un vrai péquiste. Depuis toute sa vie.
Il est dans le 9 %
Lui, ah, c'est 9 % maintenant. Ah, Banane, là, c'est son drapeau du Québec. Là. Il va être rentré au travail à matin.
Mais t'as peu.
Vêtu d'un drapeau du Québec.
Oh, mais t'as le droit d'avoir un drapeau du Québec, même si t'es pas avec le PQ.
Mais oui, mais est-ce que ça te relie directement à un parti séparatiste? Oui, un peu. J'exagère-tu? J'exagère, là.
Non, je pense que ton constat, il était vrai.
Le drapeau sur le dos, tu dis?
Ouais.
Je pense que c'est moins vrai aujourd'hui parce que cette question-là est moins d'actualité, c'est la question de la séparation. Tu sais, c'est Marc Labrèche cette année qui est le porte-parole de la fête nationale. Puis moi, je l'ai entendu dans plusieurs entrevues, puis il dit, moi, là, on s'en va là pour se faire du fun, puis peu importe votre allégeance, puis tu sais, c'est clairement dit. Mais je comprends très bien, parce que c'est vrai que pendant des années, c'était de même, là, c'était associé l'un à l'autre. Là,
c'est une braise qui n'est pas éteinte complètement. Ça, c'est vrai aussi. Là.
Puis on
ça
voit
peut
quand
repartir.
Si vous tombez du foin sec dessus, hein?
Ben, on voit quand même un regain sec, chez les jeunes adultes. Là.
Ça a toujours été les jeunes.
C'est ça.
Catherine, ça a tout le temps été une flamme très, 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 très jeune. Puis aussitôt qu'on vieillit, on voit la vie différemment. Puis la séparation de la façon dont elle nous a été vendue à cette époque-là était autre chose.
C'est sûr que moi, je pense à Émile Bilodeau qui est assez... Écoute, il a son point sur la table avec cette idée-là. Tu sais, il est souverain, puis il dit dans ses chansons, il dit dans ses entrevues. Là. Fait que c'est sûr que c'est quand même une image qui est aimée des jeunes. Fait que je sais pas ce que ça va faire pour le futur. Comme tu dis, il y en a toujours des regains chez les jeunes dans n'importe quelle période de l'histoire dans le passé. Là.
Mm-hmm. Fait que, parce que moi, je vais séparer du Canada. S'ils me disent que Justin pour rester là un bout, là, je vais voter oui de suite. Là. Moi, on décalisse. Là.
Hein?
Ah non, on sac notre Canada de là.
Où qu'on va?
C'est le Canada, ça en va dans le mur. Là. Fait
mon
qu'on
problème,
va débarquer.
Là, c'est, tu sais quoi mon problème? C'est que, puis là je fais une généralité, là, mais les Québécois, ils savent pas compter. Puis de se retrouver tout seul dans notre gang, là, c'est pas aussi beau que certains voudraient nous le dire. Là. D'être autonome, là, c'est autonome. Là.
C'est ça.
Tu t'arranges avec tes dettes puis tes dépenses. Là.
Ouais, c'est comme si un de mes fils voudrait se séparer de moi, maintenant. OK? Il fait faillite.
Est-ce que la mère patrie s'opposerait?
Non, je m'opposerais pas. Mais on coupe les vivres, là. T'sais.
Oh oui, c'est une séparation franche.
Fini les subventions, là.
On change la devise aussi.
Ça annonce qu'on changerait bien des affaires. Là.
On est parmi ceux qui collectent le plus, je pense, au Canada.
Ah oui, dans la péréquation. On est pauvres. Mais là, j'ai vu, je vous ai parlé de Banane. Tu sais, c'est parce que Banane a toujours été étiqueté.
On s'enflamme.
Banane a toujours été étiqueté comme un péquiste parce que il était allé s'acheter une chaise au Canac, en spécial. Tu sais, une chaise pliante, une chaise de party, avec la fleur de lys.
C'est la moins chère ce jour-là.
Oh oui, c'est la moins chère. Tu sais, était genre à moitié prix des autres chaises pliantes. Puis Banane, il s'est tout le temps promené dans toutes les parties avec sa chaise du Québec. Puis il s'est tout le temps fait traiter de style péquiste. Fait que.
Mais il est pas capable de faire un X dans son bulletin de vote.
Non.
Ah, Banane, fait qu'il est pas si péquiste que ça.
Banane, il a toujours dit qu'il voulait aller voter. Il a jamais trouvé le bureau.
C'est ça. Hein?
C'est que...
Il veut y aller encore.
Il veut y aller.
Il cherche un matin.
Mais hier, j'ai vu où aller. Tu sais.
Wally?
Ah oui, c'est longtemps que j'avais pas vu Wally.
Les mains dans les poches?
Hier, Wally, oui. J'ai vu
t'es à la retraite?
Non, pas encore. Il travaille, mais il venait changer de troc. Puis Wally, c'est un fidèle. Il conduit des Rams depuis toujours. Puis là, il y a un Econoline Ram. Là. T'sais, c'est pas le pick-up. Là. C'est vraiment le gros Econoline où tu peux quasiment marcher debout dedans. Puis il venait changer son Econoline. Il change aux années, ce qui fait quand même beaucoup de millages. Il est plâtrier bougon. Fait que c'est le deuxième plus bougon de la province après Gros Chien. T'sais, si on faisait un tournoi, c'est sûr qu'ils sont en finale là, dans les bougonneux. Oui. Oh, oui. Mais Wally, par exemple, m'a dit quelque chose d'important. Il m'a dit, écoute, Sef, je regarde aller ça. Il est dans la construction depuis plus de 40 ans qu'il fait ça. Il dit, ça regarde pas bien. Je peux pas te dire que ça regarde. Je regarde là, ce qui s'en vient pour la construction de maison neuve puis tout. Et qu'est-ce que ça coûte aussi se construire puis le marché. Il dit, je sais pas. C'est difficile d'imaginer que ça puisse continuer comme ça. Fait que j'aimais beaucoup son analyse, puis de voir vers quoi on s'en va. C'est très inquiétant les mois à venir, et dont la façon... Regarde à Toronto, je sais pas si vous avez écouté les nouvelles hier soir à Radio-Canada, là, mais il y avait un excellent reportage sur les maisons à Toronto. Premièrement, j'adore ça. Moi, j'aime les maisons. J'aime ça, j'aime...
T'aimes juste savoir combien ça vaut.
Comment ça vaut, comment c'est... Ouais, mais j'aime le design. Comme hier, là, ils ont interviewé une femme qui est agent d'immeuble à Toronto, était dans sa maison, elle, qu'elle avait achetée. Premièrement, il y a des aubaines pour une maison unifamiliale à Toronto actuellement. Ils sont un peu en bas de 3 millions. J'ai failli m'étouffer avec ma gorge d'eau.
Juste un peu en bas.
Ouais, hey, j'en revenais pas, là. Tu sais, quand on dit qu'on parle d'un marché inaccessible, là, c'est ça, mais vous allez me dire, les salaires sont équivalents. Hey, en 80... T'es né en quelle année, toi?
2000.
Oui. Attends, mais bon, je gagne.
Aïe, aïe. Il y a un coup au cœur.
Ben, j'ai pris une pause. Je me suis dit, là, faut qu'ils s'attendent à ce que ce soit 2000 et en haut.
Wow. Je travaillais à Toronto en 80.
Sucils?
Ouais, Sucils. Mais juste vous dire, là, fin des années 80, là, donc début 90, c'était en 89, 90, peu importe. J'étais à Toronto et je restais en chambre. Chez M. Timco. Et j'avais une chambre avec une salle de bain commune. On avait trois chambres. On était trois chambreurs. T'as trois Québécois, par exemple. Mais trois chambreurs. Et il y avait une salle de bain commune. Puis ça coûtait 400 par semaine. En 90. Mettons 90.
Par personne ou...
Oui, par personne. Okay. Ça nous coûtait 400 par semaine. Vivre dans une chambre au-dessus d'un Ukrainien. C'est un Ukrainien, d'ailleurs, M. Timko. Puis qu'il y avait un chien qui avait le Parkinson. Fait que, parce que le chien, il shake de même. Fait que, mais, donc, imagine...
Cette même chambre-là, aujourd'hui.
Je sais pas. Mais la maison a changé un peu. Je suis allé l'année passée. Puis...
4,50 au moins.
Mon frère va louer un appartement pour trois personnes à Montréal. Puis si je me trompe pas, là, c'est... environ entre 1 700 puis 2 000 $ là.
Ah. Ça n'a pas de bon
sens. Il n'y a rien d'inclus.
C'est meublé, les poignées sont en or.
OK, c'est ça. Les dîners inclus tout en... Non, je comprends, il n'y a rien d'inclus. Pis... Donc, mais garde, on continue d'avancer. Pourtant, à chaque fois, on dit que le marché devient inaccessible. Mais hier, à Toronto, on dit que là, le marché dans l'immobilier, le marché immobilier des maisons subit une baisse, en tout cas un ralentissement majeur.
Oui, oui.
C'est majeur ce qui se passe là-bas. Mais, hey, les maisons, là, qu'ils nous ont montrées, là, c'était beau, là. Beau. Hey, la madame, là, la courtière qui détend l'entrevue, moi, évidemment, que j'écoutais pas ce qu'elle disait, je faisais que regarder sa maison, elle était assise dans la cuisine. Il y avait l'îlot et son comptoir avec son évier. Tu sais, d'habitude, quand tu travailles au comptoir dans une cuisine, qu'est-ce que t'as en face de toi? T'as les armoires, il y a un dosseret, tu sais, t'es face à de la céramique pas à des armoires.
Un lavabo devant toi, tout.
Il y a l'évier qui est là.
Ouais. Un toaster.
L'évier, ouais. Tu sais, t'es sur le comptoir, mais t'es... elle, son comptoir de cuisine qui avait, je dirais, entre 12 et 15 pieds de long, OK? Donc, il y avait l'évier qui était là, puis tu voyais qu'elle faisait sa préparation de la cuisine, tout ça là. Il n'y a pas de dosseret, il n'y a pas d'armoire. C'est une vitre du dessus du comptoir jusqu'au plafond. C'est vitré à la longueur sur le jardin extérieur. Donc, quand elle cuisine, elle a une vue sur l'extérieur. C'était magnifique. J'avais jamais vu ça fait comme ça. Et je trouvais ça, ça donnait une cuisine full éclairée. Je suis un maniaque de l'aménagement intérieur, du design, des cuisines. Si le 93 me sac dehors, je pense que si Smart Cuisine, ils me veulent. Là,
ouais, designer.
Ah, j'aimerais ça. J'aimerais ça.
Mais nous, pour chez vous, tu as juste un petit coup de fil à nous donner. On débarque avec un marteau, on te défonce un mur, puis on t'installe une belle vitre. Pour te faire un bel aménagement chez toi, est-ce que ça fonctionnerait?
Ben moi, l'îlot est déjà vers la porte patio.
Ouais.
Sauf que la porte patio est couverte par un toit permanent. Fait que,
ça s'arrache.
C'est ça.
En passant, le dossier de la séparation du Québec, là, quand tu dis, Ray, qu'il y a une petite braise qui ne demande qu'à être soufflée, là.
Ouais.
25-226. Au 25-226, ça souffle la braise.
OK, tu rentres un péquiste en studio.
T'es
ouais, ça, c'est un séparatiste qui arrive là.
Moi, j'aimerais ça avoir un peu de Nicolo. Tellement beau.
Des semaines de péquistes, c'est des semaines de 4 jours.
Ben oui, c'est ça. Il se fait un horaire de péquistes pour l'été. Notre collègue Nicolas Lacroix qui s'installe tranquillement en studio.
13 semaines de vacances. C'est une
13 semaines de vacances. C'est de... 14 ou 15 congés fériés.
Ouais.
Ça va bien, là.
C'est un horaire de... Comment qu'on... C'est quoi? je voulais porter ce titre-là parce que j'en ai... Vicomte.
Comment?
De vicomte.
De vicomte.
Tu joues au golf, puis là, t'es rendu vicomte.
Non, mais pourquoi il y a un vicomte qui a parlé à la TV cette semaine, donc? Pourquoi faire, donc?
Ils se sont trompés.
Comte.
Non, le gars, il était assis de... Tu sais, des princes, puis des comtes.
Il était assis?
Hein?
Il était assis?
Ouais, il était assis, il avait une chemise brune. Il était vicomte de quelque chose, lui. Puis il décidait tout.
Pas mérite, le vicomte.
Je sais
Vico,
pas.
Moi, j'aime ça du Vico.
Ça, c'était dans notre jeune temps, ça n'existe plus, du Vico.
Vico, mais c'est encore, ça s'appelle encore comme ça, à Lillet, l'usine. C'est pas Vico? Non?
Mais c'était quoi ça? C'était du yogourt à boire?
Non, ben c'est du chocolat au lait, mettons.
Ah, Vico, c'était du chocolat au lait. Ouais. Du lait au chocolat. Ben, c'est vrai.
L'usine, Lillet, là, Vico.
J'ai jamais remarqué. Bon, OK.
Mais je suis pas d'accord. J'ai manqué des bouts de la conversation, mais la souveraineté, c'est les 65 ans et plus, là. C'est pas les jeunes.
Oh, les jeunes sont dedans.
Les jeunes vont pas voter.
Moi, je pense que Catherine a raison. Les jeunes sont dedans.
C'est les deux, en fait, parce que.
Mais t'as raison que
cette première génération-là, c'est les boomers, là.
Il y a des vieux, mais les jeunes.
Oh oui. Ben, c'est.
Il était jeune dans le temps, là.
C'est souvent amené par des artistes.
Des artistes, cette
cause-là. Donc, ouais. Ça va toucher beaucoup les jeunes. T'as parlé d'Émile Bilodeau tantôt. C'est un chanteur, ça, Stéphane.
Ben, moi, non, je sais qui. Okay. Tu sais, j'irai pas jamais le voir en show.
Comprends.
Non, non. Moi, quelqu'un qui va mélanger ces deux affaires-là, ouais. T'as un talent certain pour la musique, puis que ce soit. OK, il y en a un qui m'a fait chier royalement en fin de semaine.
Comment?
Puis c'est Sébastien Vettel.
Vettel. Donc,
lui, le pilote de Formule 1.
Pendant son spectacle.
Lui, il aurait dû fermer sa gueule. Tu sais, il est venu dire que l'Alberta était des criminels à cause des qui exploitaient du sable bitumineux. Ouais, mais lui, c'est parce que sais-tu que son char marche au gaz, hein?
Oui.
Puis que toute sa vie, c'est à cause du gaz. Mais tu sais, il a peut-être raison dans son propos, mais tu sais, si t'as cette visibilité.